Bien, mesdames, messieurs, chers amis, soyez les bienvenus dans cet amphithéâtre Alpvax où vont se tenir ces deux journées de ce que j'ai intitulé colloque de clôture de la chaire d'histoire de la philosophie médiévale. C'est d'une double disparition que je veux vous entretenir en ouverture de ces journées, vous qui avez fait l'effort, qui me faites l'amitié d'être présent et présente ici ce matin. Ce colloque scelle la fin d'un enseignement de la philosophie médiévale au Collège de France. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin d'un monde même, c'est un petit événement dans la vie d'une séculaire, multiséculaire institution. Un événement qui a déjà eu lieu une fois, en 1950, quand Étienne Gilson a quitté ses fonctions en pleine crise du neutralisme. Il n'y avait jamais eu de chaire d'histoire de la philosophie médiévale avant lui. Il a fallu, je n'ose dire, attendre 2013-2014 pour l'avoir recréée. Le hasard fait que cette disparition est contemporaine d'une autre, annoncée, non encore effective, mais déjà actée par le public. Celle de ce qu'une tribune parue le 11 mai dernier dans Le Monde, le journal, a appelé, je cite, « la notion clé de la pensée elle-même ». Vous l'avez, je n'en doute pas, reconnu, il s'agit du sujet. Le sujet dont on avait plusieurs fois annoncé la mort et presque autant de fois célébré la résurrection, le sujet dont on se plaisait à louer la capacité de résilience, va connaître, connaît, aura bientôt connu la pire des fins, la fin ultime, la fin définitive, la fin la plus infamante, le retrait du programme du baccalauréat. Déjà, la polémique fait rage, les passions se déchaînent, les pétitions fleurissent sur la toile. Partout, on réclame le retour du banni et vilipende son remplaçant, ou plutôt sa remplaçante, la métaphysique. La métaphysique contre le sujet. Étrange baissée de rideau qui appelle sans doute quelques remarques sur l'enseignement de la philosophie dans et depuis ce lieu atopique qu'est le Collège de France. Il faut à toute intrigue un point de départ, je choisis 1802. Plus exactement, une séquence qui va de l'article 10 du titre 4 de la loi fondamentale de 1802, sous l'Empire, qui classe la logique et la morale parmi les objets nécessaires de l'instruction secondaire, à l'article 145 du règlement du 29 septembre 1814, sous la Restauration, qui stipule que dans la classe de philosophie, le professeur traitera de logique, de la métaphysique et de la morale, et terminera son cours par un abrégé de l'histoire de la philosophie. Entre ces deux dates, 1802 et 1814, se situe l'événement qui ouvre le processus dont nous touchons le lointain dividende. La philosophie remplace la logique dans l'intitulé de la discipline que le décret de 1808, article 5, avait imposé parmi les matières nécessairement enseignées dans les lycées. C'est le principal acquis du règlement du 19 septembre 1809. On ne parle plus de logique, mais de philosophie. Article 5. Il y aura une année de philosophie dans les lycées chefs-lieux d'académie. Article 17. Dans l'année de philosophie, les élèves seront instruits, soit en latin, soit en français, sur les principes de la logique, de la métaphysique, de la morale et sur l'histoire des opinions des philosophes. L'arrêté du 10 février 1810 étend la mesure à tout le dispositif, c'est-à-dire à tout le territoire, en décidant qu'il sera établi des chaires de philosophie dans tous les lycées qui ne sont pas placés dans les chefs-lieux d'académie. En 1832, un second changement intervient qui, pour l'historien de la philosophie globale, ou si vous préférez l'historien global de la philosophie, présente un intérêt considérable, puisque s'y esquisse en quelque sorte le mouvement de balancier qui va voir s'affronter au tournant du 19e et du 20e siècle logicisme et psychologisme. La psychologie prend la place de la logique comme entrée dans le programme. L'artisan de cette révolution est Guizot. À partir de 1832, le trio logique, métaphysique, morale est remplacé par le groupe des quatre, ou des cinq, selon les années, qui place en liminaire et dans cet ordre psychologie puis logique. Si l'on excepte les années 1852-1854, qui voit la logique opérer un apparent retour en force, le schéma de Guizot reste en place jusqu'au changement opéré en 1960. En somme, il y a deux fronts. La philosophie contre la logique pour la dénomination de la discipline, c'est réglé en 1809, à part la courte interruption de 1854. La psychologie contre la logique pour le rôle de portail de la philosophie, c'est réglé en 1832, dès que la psychologie entre dans le jeu. Allons plus en détail. Entre 1802 et 1832, trois dates importantes. 1820, 1823, 1825. En 1820, le duc de Richelieu étant président du Conseil des ministres de Louis XVIII, Cuvier, grand maître de l'université, l'arrêté du 30 octobre stipule que le cours de philosophie est le complément de la rhétorique. Ce qui veut dire que, en conséquence, je cite, les professeurs s'abstiendront d'occuper leurs élèves de théories qui doivent être réservées pour les cours de faculté. En 1823, Denis Antoine Luc Comte Frayssinou, grand maître de l'université, puis ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique, évêque in partibus infidelium d'Hermopolis Paroi, père Jehouti, la maison de Thoth en Basse-Égypte, formule les questions de philosophie pour l'examen du baccalauréat S-lettres en latin dans les trois parties du programme, logique 22 questions, dont la question 17 rappelant la querelle des universaux, morale et évidemment au milieu métaphysique. La morale, le suicide et le duel sont interdits, solventur objecta. Et bien sûr, pour les universaux, quid cogitandum de realistarum et nominalium dissidio. En 1825, le même évêque d'Hermopolis institue le concours spécial d'agrégation pour la philosophie par l'arrêté du 12 juillet. C'est Guizot, ministre de l'Instruction publique du 11 octobre 1832 au 10 novembre 1834, qui met en œuvre la suppression du questionnaire de l'évêque d'Hermopolis, décrété le 28 septembre 1832, article 1, le programme latin des questions de philosophie de l'examen du baccalauréat S-lettres est supprimé, article 2, il est remplacé par un programme qui, précisément, nous l'avons vu, articule psychologie, logique, morale, théodicée, histoire de la philosophie. Voici, à titre d'exemple, le contenu du programme de psychologie. Dans le programme quintuple, la métaphysique a disparu au bénéfice de la théodicée et il est explicitement fait place à l'histoire de la philosophie. C'est sous Guizot qu'est mise en place la structure dont les métamorphoses ou les anamorphoses auront réglé le destin de l'enseignement de la philosophie en France jusqu'aux plus récentes de ses convulsions. Voyez le détail. On y parle de l'école d'Alexandrie et des philosophes scolastiques. Profitons-en, nous ne les reverrons plus guère. Le temps presse, nous devons avancer. Un mot toutefois, un mot encore, de l'étonnante figure du ministre Hippolyte Fortoul et des trois temps forts de son action. 1852, suppression de la classe de philosophie au profit d'une classe de logique. 1853, suppression de l'agrégation de philosophie. 1854, instruction relative à l'enseignement de la logique. Chaque titre claque comme étendard au vent, mais il faut voir ce que cachent les formules. Le programme de 1854 remet la logique à la place de la philosophie, mais dans son instruction générale sur l'exécution du plan d'études des lycées, le ministre explique que, je cite, « le nouveau programme comprend toutes les questions fondamentales de la philosophie » sous les mots « les choses ». Ici, comme dans bien des réformes, c'est d'abord, pour ne pas dire surtout, le mot qui change. Quelques dizaines d'années plus tard, le rédacteur des instructions de 1890 notera « on a autrefois pensé à conserver sa place à la philosophie dans l'enseignement secondaire, mais en réduisant son domaine et en le réduisant à telle ou telle de ses parties, en apparence plus inoffensive que les autres. » Ce n'était en réalité qu'une apparence, car on avait trouvé moyen, par toutes sortes de combinaisons artificielles, de faire rentrer sous le nom de logique la philosophie tout entière. Quelque chose change tout de même, l'intention prophylactique du législateur, qui dit bien après coup, enfin que dit bien plus exactement après coup, le mot « inoffensive ». Si toutes les questions fondamentales de la philosophie sont préservées dans le nouveau programme, elles y sont, je cite, « fortul, présentées dans une mesure proportionnée aux besoins et à la portée des jeunes intelligences pour lesquelles elles ont été rédigées. Chacune d'elles est susceptible d'une solution lumineuse, brève et instructive. Point de ces problèmes téméraires qui jettent le trouble dans les esprits sans les éclairer, qui éveillent et excitent une curiosité inquiète sans la satisfaire. » On pose les questions, on donne la réponse. Et il y a les textes. De Platon à, je cite, « la grande école du XVIIe siècle, qui fait tant d'honneur à l'esprit humain et à la France en particulier. » C'est Victor Duruy qui, en 1863, restaure le titre de philosophie et qui, en 1864, introduit, ce qui fait l'essentiel de notre gagne-pain, la dissertation. La suite, ce sont les avatars de la théodicée, de la métaphysique et de l'histoire de la philosophie, nouveau trio qui, à son tour, entame une savoureuse partie de chaise musicale. En 1865, les notions de philosophie sont intégrées à la théodicée. En 1874, elles s'autonomisent et conservent leur autonomie en 1880 et 1885 sous des appellations variées, histoire de la philosophie, notions sommaires sur les principales doctrines philosophiques. En 1874, la métaphysique fait son entrée couplée à la théodicée, qui disparaît en 1885. 1874 est une année importante pour les médiévistes que nous sommes. C'est l'année qui voit l'apparition de la psychologie du point de vue empirique où Brentano réactive la théorie scolastique de l'intentionnalité. C'est aussi en 1874 qu'est créée au Collège de France une chaire de philosophie moderne dont le premier titulaire sera, bien entendu, Jean Nourisson. Naturellement, il faudrait entrer dans le détail. Pour le programme de 2019, qui nous occupera dans quelques instants, il faut noter que les métamorphoses de la métaphysique n'impliquent pas la mort de Dieu. En 1880, l'année où Nietzsche publie « Le voyageur et son ombre », Dieu, en France, est en psychologie. Rubrique « Les résultats de l'activité intellectuelle ». En morale, rubrique « Les devoirs envers Dieu ». Et naturellement, dans la cinquième partie, métaphysique et théodicée. En 1885, il est présent dans les éléments de métaphysique, avec la providence et le problème du mal, contenu traditionnel de la théodicée, à quoi viennent s'ajouter l'immortalité de l'âme et la religion naturelle. En 1902, il est en métaphysique, dans les problèmes de la philosophie première, la matière, l'âme et Dieu. Il est encore là en 1923-1925, c'est même le dernier mot du programme, dans la section philosophie générale, les grands problèmes métaphysiques. Là toujours, là encore, en 1942 et 1945, qui laisse inchangée la dite section. On le retrouve dans le programme bipartite de 1960, à la fin de la section « La connaissance », dans un quatuor, « La matière, la vie, l'esprit, Dieu ». Précédent, l'idée d'une connaissance métaphysique. Enfin, il figure en tête des questions au choix du programme de 1973, étude analytique et critique d'un certain nombre de concepts et de thèmes métaphysiques, par exemple, l'être et le néant, l'essence et l'existence, l'absolu, Dieu, etc. En résumé, une même structure perdure de 1832 à 1945, autrement dit jusqu'à l'instauration du programme de 1960. Et pour certains complexes de questions ou de concepts, jusqu'au programme de 1973. S'il y a en histoire un long Moyen-Âge, il y a en historiographie un long XIXe siècle. Durant les 6 années de notre enseignement, nous avons consacré beaucoup de temps à ce siècle et à la figure centrale de l'historiographie moderne de la philosophie médiévale en France, Victor Cousin. Il serait intéressant de rapprocher ce que nous avons vu d'une analyse plus fine des programmes de l'enseignement secondaire et de mettre cela en perspective en l'intégrant aux travaux de Catherine Koenig-Pralon. Nous pouvons le faire à présent, il nous faut plutôt considérer la chaire d'histoire de la philosophie médiévale, cette chaire. Elle est, on l'a dit, créée en 1932. Je n'évoquerai pas les détails de cette création que j'ai évoquée dans une communication présentée le 23 janvier 2019 à un colloque organisé par Antoine Compagnon et Céline Surprenant. Je veux attirer votre attention sur une déclaration d'Étienne Gilson en 1934, 2 ans après son élection. En 1934, Gilson fait cours sur la métaphysique de Dean Scott le lundi et sur l'idéal social du Moyen-Âge le mardi. Il essaie vainement de faire créer une chaire d'histoire comparée des sociétés européennes pour Marc Bloch au cours d'une séance dramatiquement interrompue par le décès de Camille Matignon. Il publie la théologie mystique de Saint Bernard et dans les archives d'histoire littéraire et doctrinale du Moyen-Âge, Sens et nature de l'argument de Saint Anselme. En 1934, il publie aussi le texte dont je veux à présent vous entretenir, Pour un ordre catholique, recueil d'articles parus la même année dans la revue 7. Il y fait 2 observations, en tire une question et lui donne une réponse. C'est elle qui nous intéresse. Première observation, il n'y a pas de lieu où étudier la philosophie en France. Deuxième observation, la Sorbonne, qui donne 35 heures d'enseignement philosophique par semaine, ne consacre qu'une heure à la philosophie générale. Troisièmement, la question, pourquoi ? La réponse, parce qu'elle a proscrit la métaphysique dans le cadre d'une politique de laïcisation visant à éliminer définitivement la théologie de l'enseignement supérieur. Pour ce faire, elle a remplacé la philosophie par l'histoire de la philosophie. Il s'agissait de laïciser à fond la pensée française. On a donc supprimé les facultés de théologie, puis on a travaillé à éliminer progressivement la métaphysique, dont les relents théologiques rendaient l'atmosphère irrespirable à des esprits bien faits. Rien de plus facile que d'y arriver. Il suffisait de remplacer la philosophie par l'histoire de la philosophie, moyen sûr, pourvu que cette histoire fût entendue comme une sorte d'archéologie mentale ou comme un catalogue des erreurs humaines. Car il ne suffisait pas à cette histoire d'être objective, c'est-à-dire de ne pas s'intéresser à ce qu'elle racontait, il lui fallait encore être critique, c'est-à-dire légitimer toutes les affirmations de la conscience moderne, quand bien même elles ne seraient que des négations. Si étrange que cela puisse paraître, on a réussi à faire les deux à la fois. Assez remarquablement, Gilson s'en prend à l'histoire de la philosophie en dénonçant l'archéologie mentale. L'expression lui tient à cœur. Revenant sur le même thème, il la reprend encore en 1960 dans Le philosophe et la théologie et en indique l'origine. L'historien de la philosophie était désormais chargé d'entretenir une sorte de cimetière où reposeraient des métaphysiques mortes, donc désormais inutiles, purs objets de souvenirs. Notre ami le professeur Bush de l'Université Columbia de New York avait un mot charmant pour désigner ce genre de recherche, mental archaeology. En 1960, Gilson trouve le mot charmant. En 1963, paraît Naissance de la clinique, sous-titré Une archéologie du regard médical, coupure épistémologique. Cela posé, on ne dira jamais assez l'importance du contexte. En 1941, à l'occasion d'une autre élection au Collège de France, qui verra Louis Lavelle l'emporter sur son candidat, le psychologue Maurice Pradine, Gilson, partant du même constat qu'en 1934, l'absence de philosophes en France, qu'il argumente de la même façon, plaide avec énergie pour l'histoire de la philosophie. Il fait même un pas de plus en brossant l'éloge de l'histoire des idées contre celle des systèmes, à la Cousin, dénonce la, je cite, « philosophie littéraire », une autre pierre dans son jardin, et pour finir, prend contre lui le parti de Taine en se réclamant du livre sur les philosophes classiques du XIXe siècle en France, dont nous avions ici même extrait une page meurtrière fulminée contre les philologues et les éditeurs de textes. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Les reproches que l'on adresse à l'histoire de la philosophie dépendent du diagnostic que l'on pose sur l'état de la philosophie, celui de la politique, la grande et la petite, et des rapports de force institutionnels. Dans la grande famille des académiques, on est toujours le cousin de quelqu'un. En 1951, la chaire de Gilson disparaîtra. Au bénéfice d'une chaire d'histoire et technologie des systèmes philosophiques, elle ira à Martial Guéroux, présentée par Louis Lavelle. Mais venons à présent, pour conclure, à la seconde disparition, la disparition du sujet. Le sujet est entré dans le programme de philosophie du baccalauréat en 2003. Le programme qu'il remplaçait, celui de 1973, comportait en dernière section le trio anthropologie, métaphysique, philosophie. Ce ternaire retient l'attention. On a évoqué ici même à plusieurs reprises le programme de déracinement de l'anthropologie, énoncé dès 1966 par Michel Foucault dans « Les mots et les choses », ainsi que les développements de Heidegger sur la fin de la métaphysique devenue simple anthropologie. Le programme de 1973 ne dit rien sur ce point. Le plan de 2003 n'en dit pas davantage, et pour cause. En 2003, la métaphysique disparaît du programme du baccalauréat. Le sujet entre, la métaphysique sort. C'est la troisième fois depuis 1809. Elle est sortie en 32, elle est sortie en 65, au bénéfice de la Théodicée, ou couplée à la Théodicée. En 1960, on ne sait pas trop si elle est là ou si elle n'est pas là. Et en 2003, elle n'est pas là du tout. Le sujet entre, disais-je. Voyez le programme tel qu'il est tabulé dans les documents officiels. Notion, le sujet, la culture, la raison et le réel, la politique, la morale, repère. Le sujet, la conscience, la perception, l'inconscient, autrui, le désir, l'existence et le temps. Le programme contient des repères que l'on pourrait pratiquement tous exprimer en latin et illustrer pour des très hypothétiques élèves par des textes médiévaux, disponibles en traduction française. Objectif, subjectif, origine, fondement, persuader, convaincre, etc. En 2019, la métaphysique reparaît. Elle rentre, le sujet sort. Notion, métaphysique, le corps et l'esprit, le désir, l'existence et le temps, l'idée de Dieu. En fait, ce tableau mérite bien son nom. Tableau à double entrée, il y va d'une double entrée. Celle de la métaphysique en colonne 1, celle de Dieu en colonne 2. C'est cette double apparition qui suscite la polémique. Ni l'une ni l'autre ne figurait dans le programme de 2003. Pour ce qui est du reste de la colonne 2, l'esprit figurait dans « La raison et le réel », avec la matière et l'esprit, le désir figurait dans le sujet, de même pour l'existence et le temps. Le problème, c'est Dieu. Vu sur la longue durée, le retour de Dieu n'étonne pas. La métaphysique des programmes ne s'est jamais entièrement dissociée de la théodicée, et durant un bon siècle, de 1880 à 2003, Dieu, nous l'avons vu, n'est jamais sorti du champ. Allons plus loin. Qu'est-ce que cette métaphysique? Les pétitionnaires de la toile ont leur idée. Elle nous ramène à 1934, où Gilson, militant pour un ordre catholique. Le programme de 2019, c'est le retour de la philosophie médiévale et de la théologie. Quand j'entends le mot Dieu, je sors mon Moyen-Âge. Le corps et l'esprit, pourtant, ce n'est pas l'âme et le corps, c'est une distinction cartésienne. Le corps et l'âme figuraient dans le programme de 1865, certes, dans la section psychologie, distinction de l'âme et du corps et leur rapport. Mais sur les quatre thèmes de la section métaphysique, le premier et le dernier, le corps et l'esprit, l'idée de Dieu, correspondent à l'objet des méditations métaphysiques telles que le décrit la lettre dédicatoire qui, notons le passage, plaide pour la philosophie au lieu, comme dirait Jean-Luc Marion, de la théologie. J'ai toujours estimé que ces deux questions de Dieu et de l'âme étaient les principales de celles qui doivent plutôt être démontrées par les raisons de la philosophie que de la théologie. Car bien qu'il nous suffise à nous autres qui sommes fidèles de croire par la foi qu'il y a un Dieu et que l'âme humaine ne meurt point avec le corps, certainement il ne semble pas possible de pouvoir jamais persuader aux infidèles aucune religion, ni quasi même aucune vertu morale, si premièrement on leur prouve ces deux choses par raison naturelle. Le GEPP, groupe d'experts chargés d'élaborer des projets de programme, est animé par de grands cartésiens. Le programme de 2019 n'est certainement pas plus médiéval que moderne. S'il intéresse le médiéviste, s'il peut nous intéresser aujourd'hui au moment de dresser cet état des lieux, c'est pour les perspectives qu'il ouvre ou non pour le Moyen-Âge, au niveau de l'enseignement dit HLP. Humanité, littérature, philosophie, dans les classes de première. On connaît le projet. Des textes philosophiques médiévaux issus de la période dite de l'Antiquité à l'âge classique y figurent, à titre indicatif, au seul premier semestre de la classe de première, pour illustrer les pouvoir de la parole. Ils ont suscité l'ironie, le scepticisme, l'indifférence. L'usage décidera. Mesdames, messieurs, chers amis, les programmes font vieillir. Ce sont des sépulcres blanchis. Ici même, il y a un programme pour ces deux jours. Toute règle a son exception. Il ne nous fera pas vieillir. Ce colloque tient lieu de leçon de clôture, une leçon administrée par celles et ceux qui font et feront vivre encore longtemps notre belle, nos belles disciplines. Philosophie, histoire de la philosophie, philologie, édition de textes, n'en déplaise à Taine. Il ne clôt rien. Où caille la philosophie médiévale, où que soit la philosophie, l'une et l'autre sont là aujourd'hui et elles vont s'expliquer « sich auseinander setzen ». Chacun de celles et ceux qui me font l'honneur et l'amitié de présenter ici un thème qu'ils ont librement choisi, sous les intitulés rhétoriquement les plus divers, avec leur style, leurs objets, leurs talents et leurs passions propres, donneront de nos recherches une image que seule une jeunesse patiemment mûrie et en plein travail peut donner à une entreprise comme la nôtre. Je cite « l'incertitude d'un futur encore ouvert ». Un souffle de liberté, tout sauf une clôture. À présent, tel le si justement célèbre juge Roy Bean, je vais, conformément aux pouvoirs qui me sont une dernière fois conférés, me donner la parole pour présider cette première partie de la matinée, présenter brièvement les orateurs et leur donner enfin à eux la parole. Merci.